Good Morning Business, le grand débat.
Et le grand débat ce matin, c'est avec Agathe Zilber, rédactrice en chef et présidente de Corporate Finance News. Bonjour. Emmanuel Lechypre, éditorialiste BFM Business, et Marc Fiorentino, évidemment, puisque nous sommes vendredi de Roland Corporate. Marc, on va parler bien sûr de cette interview du droit de galop il y a quelques instants sur BFM Business. On est bien sûr revenu sur la hausse des taux de la BCE hier, 50 points de base. Marc, c'était normal, attendu, ou il aurait fallu bouger en raison de la crise bancaire?
Ben moi, j'ai envie de dire que pour une fois, je dis bien pour une fois, la Banque Centrale Européenne a pris une bonne décision. C'est-à-dire que plutôt que de faire pas de hausse de taux qui aurait accentué en fait l'ambiance de panique sur les bancaires en se disant s'ils ne montent pas les taux, c'est que vraiment la situation est grave. Alors que finalement, la hausse des taux n'a pas d'impact sur la situation bancaire actuelle. C'est-à-dire que ce qui a un impact sur la situation bancaire actuelle, c'est le fait d'ajouter, de donner de la liquidité aux banques qui en ont besoin. Ce n'est pas une question de hausse des taux. Donc je trouve que l'idée de finir ce cycle de hausse des taux, parce que je pense qu'on a fini le cycle de hausse des taux.
On va l'écouter, Christine.
Je pense que c'est une bonne solution, et de faire une hausse, au lieu de faire deux hausses de 0,25 en disant peut-être qu'on va en refaire une autre, de dire on fait les 0,50. A priori, elle ne le dit pas, mais on sent, on peut le lire, on peut l'écouter.
Mais on va l'écouter.
Qu'elle va faire une pause.
On va l'écouter.
L'inflation va se poursuivre à des niveaux trop élevés pendant trop longtemps. C'est pourquoi le Conseil des gouverneurs a décidé d'augmenter les trois taux directeurs de 50 points de base, conformément à notre détermination de ramener l'inflation à 2% à moyen terme.
To ensure the timely return of inflation to our 2% medium-term target.
Elle dit quand même, il faut vraiment aller à 2%. Agathe Zilber, rédactrice en chef et présidente de Corporate Finance News. Vous pensez que, comme Marx, vous avez entendu vous aussi que c'était peut-être la DRDDR, ces 0,50?
Écoutez, en tous les cas, je pense que tous les acteurs économiques en ont peut-être un petit peu assez de cette augmentation des taux, ça c'est sûr. Donc pour leur activité économique, je pense qu'effectivement ça serait bien à un moment donné de l'arrêter. Après, la situation macroéconomique, comme elle explique, elle ne tient pas compte pour l'instant de, ce n'est pas dans ses préoccupations.
Ouais, vous avez vu aussi que le gouverneur de la Banque de France sur ce plateau nous dit attention à l'inflation sous-jacente. C'est ça qu'on regarde en fait maintenant.
Alors c'est amusant parce qu'il dit ça et puis il y a quelques mois il la voyait pas l'inflation.
C'est ça.
Donc, on peut lui faire confiance, comme on peut faire confiance à la Banque Centrale Européenne, à Christine Lagarde. Ce qui est très intéressant surtout, c'est qu'on recommence avec les obsessions. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'obsession du retour aux 2%. On a eu les 3% de déficit budgétaire. On a eu les 2% quand on était en déflation. On disait, il faut à tout prix remonter à 2%. Et maintenant, on a cette obsession de 2%. Alors que finalement, avec une inflation à 3 ou 3,5%, on vivrait très bien. Ça serait même une très bonne nouvelle.
Justement, on n'en est
pas si loin que ça, parce qu'on est à 6%. Et le taux de baisse se fait par palier. Certes, ça ralentit, mais l'inflation baisse quand même.
Emmanuel.
À l'objectif d'inflation à 2% quand on était en déflation, ça a coûté très cher. Puisque c'est en partie la raison pour laquelle on a autant nourri, finalement, la finance mondiale en liquidité. Avec une obsession qui, encore une fois, était infaisable. Parce que quand vous êtes dans un environnement où non seulement l'univers de la finance, mais non seulement l'univers technologique aussi pousse les prix à la baisse, et dans lequel vous n'êtes pas capable, finalement, dans votre indice de prix, de faire la différence entre la mauvaise déflation, c'est-à-dire celle qui vient de pression excessive sur les prix et sur les salaires, avec la bonne déflation qui est par exemple l'inflation technologique, on a nourri finalement les bulles financières. Et l'obsession effectivement de revenir à 2% d'inflation, on voit bien que c'est là encore quelque chose qui est encore dans ce qu'on disait, c'est-à-dire il faut revoir, comme on a revu le logiciel sur les politiques monétaires en période déflationniste, et ça a quand même pris 20 ans, puisque rappelez-vous quand même au début des années 2000, dans les années 90, il y avait des débats sur l'inflation qui s'était déplacée en gros de Main Street vers Wall Street, et on savait pas comment la gérer. Regardez ce qu'étaient les politiques monétaires en 2008, la culture des banquiers centraux en 2008 et ce qu'elle est aujourd'hui, on a fait la révolution. Et là, on se rend compte que finalement, dans une période où, après 40 ans, personne qui est aux manettes, quel que soit le poste où il est aux manettes, c'est-à-dire dans une entreprise, dans une banque, sur les marchés financiers, au gouvernement, tout le monde a oublié ce que c'était que l'environnement inflationniste. Et donc, il faut que les banquiers centraux nous réécrivent le logiciel de la bonne politique en matière de lutte contre l'inflation au 21e siècle et pas nous ressortir les vieilles méthodes des années 70.
Le gouverneur nous a rappelé que l'inflation c'était l'ennemi de la croissance. Est-ce que c'est vrai?
C'est faux.
Ah,
c'est faux.
Ça dépend jusqu'à combien, Marc.
C'est totalement faux.
C'est totalement faux.
Ben, la déflation, c'est l'ennemi de la croissance. On l'a vécu au Japon. Un niveau d'inflation qui est un niveau d'inflation normatif, c'est-à-dire que, et on peut pas le fixer, c'est absurde. Emmanuel a raison pour une fois. C'est absurde de dire 2%, 2,5%, 3%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être qu'on est dans un environnement pendant 2, 3 ans. Mais on ne sait pas. C'est-à-dire que 3, 3,5, ce n'est absolument pas un problème. C'est-à-dire, il faudrait rassurer les gens qui nous écoutent et rassurer aussi les dirigeants des banques centrales. Arrêtez avec ce dogme, arrêtez avec les dogmes. Il faut s'adapter aux environnements. Et 3% d'inflation, on le voit, hein, aujourd'hui, les entreprises, grâce à cette inflation-là, ouais, on fait des profits qui sont...
Alors, ils ont augmenté leur marge.
Bah, évidemment.
Ouais. Aga Zilber, c'est moins dangereux finalement l'inflation que la hausse des taux?
Écoutez, en tous les cas, moi, d'un point de vue macroéconomique, je laisse les experts là qui s'expriment très bien. Je sais que en microéconomie et dans la partie que je couvre, c'est-à-dire les acteurs du private equity, donc du capital investissement qui financent les entreprises, en tous les cas, eux, depuis, c'était même nouveau ce timing sans inflation jusqu'à présent. Ils ont exercé leurs activités et ils levaient quand même, ils avaient des taux d'intérêt à 8-9%, et ça ne les dérangeait pas pour faire des opérations de LBO. Donc en fait, ils sont pas particulièrement inquiet, en tous les cas quand je discute avec eux, d'avoir des taux qui remontent comme ça. Et effectivement, je pense qu'ils sont plus dans une normalité, en fait. Et c'était une anormalité, la période qu'on a connue ces derniers...
Mais vous disiez, ils en ont marre, les acteurs économiques, de cette hausse des taux. Faut passer au
chômage. C'est-à-dire que, oui, je pense que ce dont ils en ont marre, c'est de voir cette fluctuation et de pas savoir où ça va se stabiliser. Je crois que c'est plutôt ça qui les inquiète, c'est de pas savoir où ça va se terminer. Ça, c'est sûr. Je crois que c'est cette incertitude.
Mais ce qu'il faut... Alors, Emmanuel, je peux rejoindre en partie Marc sur un point. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a, comme on était dans une déflation structurelle au cours des 30 dernières années, on va rentrer dans une période d'inflation plus forte pour des raisons structurelles qui sont liées à la réduction, à la fragmentation du monde de la production. Donc vous allez avoir des relocalisations, ça fait des coûts plus élevés. Vous avez la transition écologique, énergétique, qui fait que ça va coûter plus cher. Vous avez moins de concurrence à l'échelle mondiale. Vous avez une population qui vieillit, ce qui fait moins d'épargne et ce qui fait plus d'inflation. Voilà. Et donc tout ça pour dire que ça, c'est des tendances structurelles. Et si vous voulez les contenir, si vous voulez les contenir à l'excès, avec une borne d'inflation à 2%, eh bien là, oui, vous compromettez sérieusement vous risquez d'étouffer véritablement l'économie mondiale. Le problème de l'inflation à 3%, c'est pas l'inflation à 3% aujourd'hui, c'est que il faut qu'on soit sûr que cette inflation à 3% aujourd'hui, elle devienne pas 5% d'inflation demain. C'est ça le sujet pour les banquiers centraux.
Juste Marc, Aga Zilber disait on sait pas où on va sur la hausse des taux de la BCE. Hier, on n'a pas eu de calendrier, on a dit on verra en fonction des éléments qui sont à notre disposition, comme s'il y avait un changement de guidance.
Ben justement, rien que ça, c'était une indication. Parce que jusqu'à présent, on avait des discours qui était extrêmement dur, qui consistait à dire attention, l'inflation, il faut la combattre, il faut retourner à 2%, ce qu'elle a continué à dire. Donc, on va continuer à monter les taux d'intérêt. Elle n'a pas dit on va continuer à monter les taux d'intérêt.
Non, c'est vrai. Pour
elle a dit on va rester vigilant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, très clairement, l'ambiance globale, c'est de marquer une pause.
Alors, pour l'instant, cette hausse des taux, elle a des conséquences évidemment sur le secteur bancaire, à commencer par le secteur bancaire américain. On va écouter Janet Yellen sur cette fragilité qui nous inquiète du secteur financier américain.
Oui. Nous avons estimé qu'il existait un risque sérieux de contagion, de retrait massif chez les clients qui disposaient de fonds supérieurs au montant garanti, qui aurait pu faire chuter de nombreuses banques et déclencher des paniques.
Aga Zilber, SVB au départ, c'est la banque qui finançait la tech. Est-ce que ça a eu une vraie onde de choc? Est-ce qu'il y a une inquiétude ici en France sur les banques européennes? On avait beaucoup rassuré ces derniers jours. Sur la tech française, vous en pensez quoi?
Alors moi, en discutant un petit peu justement avec les personnes que je connais, notamment les fonds d'investissement, et franchement, je pense pas. Je pense qu'alors eux, ils sont tout à fait sereins. Ils se sentent pas du tout concernés par cette situation effectivement californienne où c'était vraiment... même pas normal, si je puis dire, qui est juste une banque, et en plus pour qui il y a tous ces problèmes de qu'elle ne diversifiait pas ses placements, etc. Ici, je pense que le système effectivement est complètement différent. Donc les startups, elles ont, et on l'espère et on le recommande, leur fonds sur différentes banques. Et évidemment, le système français et européen est beaucoup plus régulé à ce niveau-là.
Enfin, donc, ce sont quand même les fonds d'investissement qui ont déclenché le bankrun. C'est les fonds d'investissement qui ont appelé leurs clients, les sociétés dans lesquelles ils avaient investi, pour leur dire sortait l'argent de la banque. Et c'est ça qui a fait que la banque en face n'avait pas les moyens, n'avait pas les encours pour
tout à fait, mais peut-être parce que c'était justement centralisé, beaucoup trop centralisé dans une banque qui elle-même était en plus dérégulée, en fait, qui n'avait pas d'obligation de placement diversifié.
Oui, c'est ça. Est-ce que SVB, c'est un scandale de non-régulation ?
Non, je crois pas. C'est C'est le scandale d'une banque qui commet tout un tas d'erreurs qui la fragilisent. C'est-à-dire que, enfin, il y a pas beaucoup de banques au monde qui dépendent à 80% d'un seul secteur, qui dépendent à 80% d'un seul type de clientèle. C'est-à-dire que quand vous avez une clientèle aussi peu diversifiée, aussi ciblée, ça veut dire que quand cette clientèle, en l'occurrence des startups de la tech, commence à avoir des difficultés, bah vous êtes pieds et poings liés avec ce secteur. Et puis, moi, ce qui me fascine, c'est quand même la rusticité, finalement, de cette crise. C'est-à-dire qu'en gros, quelle que soit la sophistication du système financier et des liens, des interconnexions que vous pouvez imaginer entre les différentes banques, la réalité, c'est que c'est la bonne vieille panique et la ruée au guichet. Et voilà, et ça, vous pouvez avoir n'importe quelle situation
financière. Mais c'est pas de la contagion, mais c'est quand même impactant.
C'était ça la contagion à éviter. C'est pas la contagion par les mécanismes de dépendance et d'effet domino.
Marc.
Moi, je pense que ce qui est très important dans ce qui est en train de se passer, ce qui se passe depuis plusieurs mois, et je suis surpris par la surprise de tout le monde ou l'inquiétude, c'est qu'en fait, on ne passe pas d'un monde de taux négatifs ou zéro pendant 10 ans avec une sorte de paresse financière terrible, hein. C'est-à-dire que quand tout est gratuit et que l'argent est magique, on fait tout et n'importe quoi, on investit n'importe comment son argent, on gère une banque n'importe comment, on gère des états et des déficits n'importe comment, à une période où on a des taux d'intérêt qui ont été relevés extrêmement rapidement, on vit quand même un changement de paradigme qui est fondamental en macroéconomie.
Mais
c'est absolument
sain.
Dingue.
Plutôt sain, si vous
Sain ou pas, pour l'instant, je veux dire, on est dans un retour à la normale. Ce qui était anormal, c'est la situation qu'on a eu avant trop longtemps. Donc on est dans un retour à la normale. Mais ce n'est pas parce qu'on passe d'une situation anormale à une situation normale qu'on n'a pas une phase de transition.
Ah oui.
Et pendant la phase de transition, il y a une phase d'adaptation. Et pendant la phase d'adaptation, ce qui se passe, c'est que les bulles éclatent. On est en train d'assister à l'explosion de toutes les bulles.
Mais alors, attendez, parce que, quand même, Manuel, non. Vous ne trouvez pas ça pas plus sain, un monde où l'argent a un coût ?
Beaucoup plus.
Non, mais bien sûr que oui. Mais ce que je veux dire, c'est que là où pourquoi la situation est explosive, c'est parce qu'effectivement, tout ce qu'a dit Marc sur les taux d'intérêt zéro et quand le temps et le risque ne valent plus rien, on voit qu'on fait n'importe quoi, effectivement. Mais le problème, c'est que quand vous combinez ça avec, en même temps, des réglementations prudentielles qui deviennent extrêmement dures, qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez bien que dans vos grandes banques qui ont pignon sur rue aujourd'hui dans le monde, tous leurs ratios sont béton. Et comme elles n'ont pas pu prendre les risques, finalement, les risques ils sont allés où ? Quand vous avez de l'argent gratuit et que vous avez une finance parallèle, donc tous les fonds, etc., qui a pu finalement absorber le besoin de risque qui n'était plus disponible dans les grandes banques, et là vous avez toute cette partie de la finance là. Moi c'est aujourd'hui là que je pense qu'il faut scruter ça de très près. La BCE le fait d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle la finance parallèle, exactement. Et là quand vous voyez les sommes, c'est je sais pas 60 000, 70 000 milliards de dollars aujourd'hui, c'est là que vous avez sans doute tout un tas de bombes.
Agathe, enfin c'est la fin des investissements n'importe où, n'importe comment.
Alors encore une fois, dans le secteur d'activité que je connais le mieux, c'est-à-dire franchement le non-coté, hein, donc les investissements dans le non-coté, le n'importe quoi, n'importe comment. Bon,
pas tout à fait d'accord.
Mais je pense que bon, évidemment il y a différents.
L'argent gratuit n'était là aussi quand même.
Risque dans le capital risque. Oui, alors l'argent gratuit, mais enfin les fonds, ils lèvent quand même des fonds auprès d'investisseurs institutionnels.
Oui, mais
donc, eux, c'est pas de l'argent gratuit quand même.
Sur des ballots qui sont un peu délirantes.
Ah oui, alors ça, effectivement. Alors, il y a les levées de fonds qui ont été ces dernières années très concluantes. Il y a l'activité du capital innovation, du capital risque qui a été booming et justement, surtout l'année d'avant. Là, il y a eu une petite baisse cette année. On l'a déjà vu au niveau des acteurs du capital risque. Alors, effectivement, les valorisations n'ont fait qu'augmenter, mais aussi parce que, justement, le non-coté, on parle beaucoup de macroéconomie, mais si on parle encore une fois du terroir français notamment et des PME et des entreprises, il y a énormément d'entreprises de qualité qui sont justement non-cotées, qui d'ailleurs, vous voyez bien, il y a quasiment pas d'opérations boursières. Hein, donc ces entreprises, elles ont besoin de fonds et en général, elles vont presque plus vers leurs banques, elles vont vers ces acteurs du privé, fonds d'investissement et fonds de dette, qui font aussi le job de la banque.
Marc,
pour... Donc un peu décorrélé quand même.
Pour rebondir sur ce qu'a dit Emmanuel, je pense qu'on a tout oublié en quelques semaines. Hein. Rappelez-vous les résultats des banques. Hein. les résultats des banques il y a quelques semaines, excellent, c'était des résultats records. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que la situation pour les banques aujourd'hui est très bonne. Je voudrais juste donner un chiffre. Il y a 525 milliards d'euros qui dorment dans les comptes courants à 0% de taux d'intérêt en France. C'est un des principaux placements des Français, l'argent qui dort à zéro. Et les banques les replacent à 3%. Ça fait beaucoup d'argent, ça fait 15 milliards de bénéfices.
Alors, j'aimerais qu'on on commente ensemble ce qu'a dit Emmanuel Macron hier au sujet du 49-3. En gros, il a dit au Conseil des ministres, l'une des raisons pour laquelle il faut absolument adopter la réforme des retraites et donc utiliser le 49-3, c'est qu'il ne faut pas désespérer les marchés financiers. Les marchés financiers veulent la réforme, sinon on va être ridicule. Est-ce que c'est un argument que vous trouvez crédible, Emmanuel, Marc, Agathe?
Moi, je pense qu'il faut l'étendre au-delà. C'est-à-dire, c'est pas seulement les marchés financiers. C'est aujourd'hui la crédibilité de la France dans son ensemble et de la parole de la France qui est questionnée. Lisez la presse étrangère aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est un peu la risée de toute l'Europe. Globalement, les Français que beaucoup de nos voisins considèrent comme des feignants qui veulent pas travailler 2 ans de plus, etc., etc. Je regardais, sauf erreur de ma part, la une de The Economist cette semaine. C'est pas Margaret Thatcher, celle dont la France a besoin.
Le gouvernement espagnol qui s'est moqué de nous.
Exactement. Donc, et quand vous allez arriver à Bruxelles, que vous n'avez même pas été capable de faire une réforme qui était censée vous rapporter une dizaine de milliards par an, quelle est votre crédibilité? Donc moi, quand j'entends Bruno Le Maire qui nous dit qu'il va trouver des dizaines de milliards d'économies dans les comptes publics l'année prochaine, franchement, s'il y arrive, il réparera en partie l'image. Mais c'est vrai que notre crédibilité internationale aujourd'hui, et notamment en Europe, elle est quand même à un niveau extrêmement bas.
En fait, il y a un lien avec les sujets d'avant. C'est-à-dire que là aussi, c'est la fin de l'argent facile. Là aussi, c'est la fin de la bulle du déficit public. C'est-à-dire que c'est la fin de partie, on retourne à la normale. On ne peut plus faire tout et n'importe quoi. On doit bien gérer un État comme on doit bien gérer une banque. Finalement, il n'y a pas tellement de différence entre la Silicon Valley Bank et l'État français. C'est-à-dire qu'on gère n'importe comment parce qu'on se finançait à des taux d'intérêt négatifs. Et aujourd'hui, les Allemands ont sifflé la fin de partie. Ils ont sifflé la fin de partie. Il faut que ça s'arrête. Donc, on doit donner des signes et des preuves de crédibilité.
Agathe.
Écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter sur ce sujet. C'est vrai que c'est
les fonds d'investissement ne regardent pas la réforme des retraites avec attention.
Je pense pas qu'aujourd'hui, ça soit effectivement le sujet. En revanche, les répercussions, ça, c'est sûr que les répercussions que ça a sur l'activité et justement entre les grèves, toutes les contraintes qu'il y a, là, oui, ça, je pense que ça c'est sûr que ça a un impact négatif, oui.
Bon, donc il a eu raison, selon vous, d'utiliser cet argument, c'est vrai.
Je dirais que la façon dont il l'a utilisé, le timing est un peu facile, parce qu'il est dans une période qui est une période très difficile. Maintenant, est-ce qu'il y a un problème de crédibilité, comme dit Emmanuel, de la France? Et est-ce qu'on doit siffler la fin de partie et retourner à la normale? La réponse est oui.
C'est votre argent, ce soir?
Oui, évidemment, exceptionnel.
C'est
on va parler de crise bancaire, c'est à 20h, bien sûr, comme toujours. Mais surtout, il faut voir le replay et le podcast, parce que maintenant, c'est ça le plus important.
Exactement, je vous ai bien appris
la
chose.
Madela, les pionniers, 19h, l'heure. 20h, c'est votre argent, 21h iconique. Mais si vous n'avez pas l'heure, vous pouvez aller sur le replay.
Absolument, il y a aussi de la librairie de l'écho. Vous savez l'horaire ou pas?
On va se détendre. Demain, 16h et dimanche, 22h.
Non,
on va se détendre avec le pop management et le management par le rire. Des invités extraordinaires.
On rit énormément sur BFM Business.
Vous allez rire
dans toutes
beaucoup.
Les émissions. Merci à tous les trois.